Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien bonjour à tous et à toutes, chers gladiateurs et gladiatrices de l'écologie. Donc vous êtes bien revenus dans vos arènes favorites, les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Alors ce soir, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, on va parler plastique. Et oui, parce que les plastiques, on sait tous que c'est très pratique, on les pensait même inoffensifs. Et pourtant, depuis quelques temps, on sait qu'ils envahissent à peu près la planète. On les retrouve sur les plages et jusqu'au fond des abysses. Et plus grave encore, ça, par contre, c'est le scoop du soir. On les retrouve même dans le cerveau humain. Alors, pour en parler, on a fait appel à notre spécialiste du sujet, plus que spécialiste, qui est même celui qui a révélé la chose. Alors, il est venu avec sa casquette de Sherlock Holmes, et c'est notre ami Yves Lers, ancien... oui, parce qu'ancien, il faut bien le dire.
Ouais, ça ne choque pas.
Ancien responsable de la chronique, des rubriques environnement et sciences de l'AFP, et puis aussi ancien directeur de la communication de l'ADEME, qui donc a passé son année 2025 à traquer les salopards plastiques, comme tu les appelles, dans les labos de la planète entière, avec une enquête très approfondie sur les révélations des scientifiques, sur les nouvelles contaminations des plastiques qu'on retrouve jusque dans le sacro-saint de nos organes, celui auquel on prête pourtant le plus d'attention, à savoir notre cerveau. Et donc, les plastiques, eh bien, ils ont franchi cette limite, alors pas la dixième limite planétaire, mais au moins une limite, on va dire, de la vie pour rentrer dans notre cerveau. Je crois que c'est carrément moi ce que j'appelle un sacrilège. Alors Yves, comment t'as fait pour venir à nous éclairer là-dessus?
D'abord, je ne crois pas au sacrilège. C'est la première des choses. Le plastique, comme tu le disais, c'est 500 millions de tonnes par an. 500 millions de tonnes produites. Hein? Et ça ne s'arrête pas, ça continue. Et ça veut dire qu'il y a autant dans les océans, dans les sols, dans l'air, parce qu'il y en a pas mal dans l'air, et c'est ça qu'on absorbe. Or, ce qu'ont trouvé les chercheurs, en particulier des chercheurs des États-Unis, deux groupes de chercheurs des États-Unis, qui ont commencé à trouver du plastique un peu partout dans le corps.
Alors Yves, top. On va faire aussi le petit tour de table, présenter nos autres invités.
Oui, bien sûr.
Mais effectivement, je te vois tout de suite parti, tu as bien raison. Quelquefois, on tourne autour du pot, mais alors toi, tu fonces directement dans le tag. Mais c'est très bien. Alors donc, on a ce soir Béatrice Bellini, donc notre partenaire de l'économie positive, chère UNESCO à Nanterre. Et tu tentes de te mettre en liaison avec notre parlementaire d'Avrier, devenu maire d'Avrier, donc l'ancien député Philippe Bollot, mais qui aurait pu ou qui pourra, on ne sait pas encore, le suspense est total, à nous parler de ce que peut faire le Parlement ou ce qu'a déjà fait le Parlement pour lutter contre la pollution plastique. Et puis on a notre nouvelle chroniqueuse qui depuis trois semaines presque vient dans le studio des arènes de l'écologie, donc Charlotte Leduc, qui est pour le coup chimiste et journaliste, donc elle va nous apporter ses lumières et ses questions pertinentes sur le sujet. Donc pour commencer, comme chaque semaine, on va débuter avec la bonne nouvelle de la semaine que nous a préparé notre ami Théo.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine. Et puisqu'on s'approche lentement mais sûrement de l'été et des vacances pour la plupart d'entre vous, en tout cas je l'espère, on va parler de tourisme et plus précisément de surtourisme. Alors pour rappel, le surtourisme c'est une surfréquentation touristique de certains lieux et ça peut parfois devenir un véritable fléau. D'abord pour les habitants du coin qui voient leur village se transformer en Disneyland pendant plusieurs mois, mais aussi pour l'environnement qui fait souvent les frais de cette surfréquentation. Et c'est d'autant plus vrai en bord de mer puisque 50% du tourisme mondial se fait sur les côtes avec des conséquences très concrètes hein, pour l'environnement. Une perte de biodiversité, bien souvent une dégradation de la végétation, des quantités de déchets importantes, etc. Et ça nous amène à notre bonne nouvelle de ce soir. La Grèce a pris la décision à partir de cette année d'interdire 250 plages privées dans tout le pays, notamment dans des zones Natura 2000 qui sont des zones protégées à l'échelle européenne. Alors pour être précis, quand on parle de plages privées, ici on parle de plages accessibles au public, mais souvent dotées de bars, de parasols, de transats, le tout payant évidemment. Et ces plages-là, c'est encore plus un problème que les autres. D'abord parce que ces infrastructures, les bars par exemple, ça participe à l'artificialisation des côtes. Et puis surtout, le problème principal, c'est que ces infrastructures attirent énormément de touristes sur les mêmes sites. Et ça aussi, ça a des conséquences. Une augmentation des déchets, une dégradation des dunes ou encore un dérangement des espèces qui viennent habituellement y nicher. Je vous laisse imaginer la tortue qui vient juste pondre ses œufs tranquillement, ça doit lui faire bizarre de tomber sur une rave party à 5 du mat. Évidemment, je caricature, mais l'idée est là. Alors l'interdiction de ces plages privées, c'est clairement une bonne nouvelle pour l'environnement, elle reste évidemment accessible au public, mais l'idée c'est que l'absence d'infrastructures pour accueillir les touristes va permettre de mieux les répartir, et donc de réduire la pression sur les sites les plus sensibles. Et puis en fait, cette mesure, elle s'inscrit dans un contexte plus large de politique publique visant à protéger les plages. Par exemple, d'autres territoires comme Hawaï ou Bali en Indonésie ont récemment pris des mesures similaires d'interdiction des plages privées, notamment pour lutter contre le surtourisme. Et même au-delà de cette mesure précise, on constate de plus en plus de mesures visant à limiter le nombre de touristes sur des plages très visitées, par exemple en devant réserver à l'avance. Alors je vous le concède, c'est parfois plus contraignant, mais c'est franchement mieux que d'être 25 au mètre carré. En tout cas, de plus en plus de pays et de villes à travers le monde protègent leurs plages et plus largement l'environnement local face au surtourisme, et ça c'est quand même une super nouvelle. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien merci Théo, une belle chronique sur la mer, sachant que tu es à la montagne, je te félicite. Puis bon, effectivement, tu ouvres un peu un sujet qu'on pourra avoir l'occasion de traiter prochainement, notamment, je peux l'annoncer tout de suite, le 8 juillet, on fera une émission sur le 50e anniversaire de la loi de la protection de la nature, et ce sera sûrement l'occasion de voir si ça a été efficace ou pas, si depuis 50 ans on a su protéger la nature, ou au contraire, si c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Mais bon, voilà, ce soir aussi, Ben a été retenu dans un colloque, donc on n'a pas notre chronique familière et adorée sur le tour du monde intramuros de Ben Kramer. Mais bon, moi, je voulais vous parler des nouvelles du ministère, les nouvelles de Roquelaure, et qu'a bien pu faire Madame la ministre, Madame Monique Barbu, cette semaine. Alors, bon. Je crois que c'est une petite semaine. C'est vrai qu'elle s'arrête le mercredi soir, elle va s'arrêter ce soir, parce que demain, c'est jeudi et vendredi. Ben, Madame la ministre, manifestement, fait le pont comme tout le monde, donc presque tout le monde. Et puis, cette semaine, c'était sympa, quoi. Grosso modo, il y a été beaucoup d'entretiens avec des dames. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, au moins, ça a cet avantage-là. Ça met Madame Barbu met les femmes à l'honneur. Donc, on avait la directrice... présidente directrice du BRGM. Alors je me dis que c'est peut-être donc Madame Catherine Lagneau, qu'il faut citer, puisque effectivement on ne la connaît pas tous, et qui se trouve, j'imagine, faire le SAV un petit peu du président de la République après son escapade dans le Morvan sur le site de la future mine de lithium. Et puis il y avait aussi, on a dû parler baleine avec Lamia Essam Lali, la présidente de Sea Shapers, par les baleines, puisque c'est l'association de Paul Watson, mais aussi peut-être des pillages par la pêche industrielle. Donc je connais un petit peu les sujets qui les intéressent. Et c'est vrai qu'il y a une vraie préoccupation sur cette question-là. Et puis après, bon, Madame Autissier a été décorée de l'Ordre National du Mérite. Et puis ensuite, on a eu Olga Givernet, alors une ancienne ministre, députée de l'Ain, mais je suis désolé, j'ai même pas eu le temps de savoir ce qu'est ancienne ministre de quoi. Est-ce que c'est quelqu'un autour de la table sait de quoi a été ministre Madame Givernet?
Si, si, c'est bon.
Ah, voilà. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Monsieur Bolo est en ligne et nous fait part de ses lumières. Et donc voilà. Donc, Madame Givernet, je n'avais pas imprimé qu'elle était ministre de l'énergie.
Peut-être pas très longtemps.
Alors, c'était sur la période des ministères tournants ou...
Je crois que c'est... Alors, je peux vous le dater dans le temps, parce que c'était au moins fin 2024. Donc, fin 2024, c'était... J'ai du mal à suivre, hein, vous voyez.
D'accord, oui. Donc, elle peut-être était ministre de M. Barnier ou de...
Non, c'était avant. C'était avant. Ça devait être Gabriel Attal, je crois.
D'accord, d'accord. Ok, bon, bah, écoutez, elle garde son titre, c'est toujours ça de bien. Et puis ensuite, effectivement, bon, c'était la réunion habituelle avec Mme Chabot et M. Lefebvre. Alors, je ne sais pas s'ils ont pris le thé ensemble ou s'ils ont ouvert des dossiers stratégiques, en tout cas. L'agenda ne dit rien là-dessus. Et puis, bah, il s'arrête ce soir, l'agenda de Mme la ministre, et on va lui souhaiter un bon week-end prolongé. Et donc, ben voilà, nous, on va faire notre petite pause musicale et puis on va rentrer dans le vif du sujet sur les plastiques, puisque tous nos invités sont là. Donc, Yves Lers, auteur du livre Apparaître, Plastique dans la tête. Voilà, je le reprends. Plastique, un poison dans la tête. Et puis monsieur Philippe Bollot, donc, alors, maire d'Avrier et ancien député, je me trompe pas ce coup-ci.
Non, c'est bien, vous avez tout juste.
Parfait, parfait. Bon, bah écoutez, la petite pause musicale et on revient d'attaque sur les plastiques.
Le temps s'est écoulé, mais l'espoir n'a pas faibli. Le corps s'est défoulé.
Je t'aime, on fait la diff, d'amour et la maladie. Je le veux pas dans l'au-delà, je le veux ici, notre paradis. Je te fais pas l'amour en freestyle, ton cœur est en cristal. Faut que je te protège, puis on se fume comme cannabis.
Attends, stop. Nous parlons d'amour quand d'autres parlent de mort. Faut-il mettre des amandes aux amants qui s'aiment fort? S'il existe un antidote, je l'userai pour faire changer les mœurs.
Même si parfois je m'y sors, mon cœur a un antivore. Les épreuves me grandissent, j'ai le cœur.
Le temps s'est écoulé, mais l'espoir n'a pas faibli. Le corps s'est défoulé, mais sans protéger sa vie. L'amour, la haine, son cœur qui saigne ne tombera pas dans vie. Je l'emmènerai près du grand soleil, un jour de pluie.
J'enlève tes organes, vais chez Pra ou le Wayo. Demande de latex comme le mater fait le maillot. Faut qu'un rêve ta dame avant de faire le voyage.
La cause est bonne donc forcément on est tous concernés. Quand l'amour, la haine se rencontrent, le match est à guichet fermé. On mélange nos pensées, nos désirs et nos ADN. Pour protéger ce qu'on aime, faut commencer par se protéger soi-même.
On n'écrit pas de chansons d'amour pendant qu'on fait l'amour. Alors on fait la guerre au mal, comme l'armée du ruban rouge. Un grand pas pour l'humanité, nos pas sur la lune. Y'a des dates d'expi sur les capotes, mais pas sur nos luttes.
Mais l'espoir n'a pas faibli. Le corps se défoule.
Sans protéger sa vie, l'amour, la haine, ton cœur qui saigne, ne tombera Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Armand va nous désannoncer ce morceau qu'on a attendu presque une semaine puisqu'on l'avait squeezé la semaine dernière. C'est bien ça ?
Oui, c'est sur le site d'Action.
Ok.
Sur le site d'Action.
Parfait, bah écoute... On manquera pas de le réécouter, c'était sympa. Alors donc, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie avec nos deux invités, l'un au micro, Yves Lers, qui vient d'écrire un livre sur cette révélation que le plastique a atteint le cerveau humain, et puis avec Philippe Dolo, qui est en ligne avec nous, alors qui est à Avrillé, sur les bords de la Maine, et qui est ancien député et qui, je crois, était très actif sur ces questions des plastiques durant sa mandature. Mais bon, Yves...
Je crois qu'il l'est toujours, même si c'est plus sa mandature.
Actif sur les plastiques, ben, voilà. Il va nous le dire, dire, voilà. Mais bon, j'essaye de respecter le cadre réglementaire bon, et m'en tenir à cela. Parce que c'est pas ces fake news ici. Hein, Yves, alors, comment t'as fait toi comment ça arrivé que tu puisses nous dire comme ça quelque chose qui est assez invraisemblable? On a du plastique dans la tête.
On a du plastique dans la tête, on a du plastique à peu près partout dans notre corps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 500 millions de tonnes de plastique qui se promènent. Et puis, il y a du plastique de proximité. Le plastique de proximité, c'est celui qu'on consomme pas tous les jours, mais avec lequel on emballe nos marchandises, en particulier la nourriture. Le premier danger, c'est la nourriture, c'est les petits sacs plastiques que vous trouvez dans les supermarchés, parce que ces sacs-là, comme le reste, ça se dégrade. Et ça se dégrade très vite. Vous pouvez le remarquer si vous avez dans votre garage ou dans votre cave, je ne sais pas quoi, des bouts de plastique qui ont traîné. À un moment donné, ils deviennent tout petits, y compris dans le jardin. Et là, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux, en particulier pour les enfants. Mais on reparlera peut-être des enfants.
Oui, alors explique-nous le processus. Comment le plastique arrive dans la tête? Parce qu'effectivement, on ne va pas le manger.
Le plastique, une fois qu'il est dégradé, c'est du micro. Plastique, c'est du microgramme ou du nanoplastique.
Alors c'est mille fois encore plus petit.
Le nanoplastique, c'est un millième de millimètre.
D'accord.
Vous ne le voyez pas sur cette table, ni sur le truc, c'est rien. C'est pas infiniment petit, mais extrêmement petit. Donc ça peut se glisser partout. Même les microplastiques peuvent se glisser partout. Déjà, ils sont petits, mais les nanoplastiques en partout. Encore plus. Et comment ils font pour venir effectivement se glisser dans le reste, dans tout le corps, hein, parce que comme on l'absorbe par la bouche, on l'absorbe par l'air et tout.
Donc on en mange et on en respire, c'est ça que tu nous dis.
On en mange et on en respire, et pour arriver dans le cerveau, il passe par le nez.
Ah.
Par le nez, par les nerfs ici, et ça, je ne veux pas faire le geste, mais vous comprenez que c'est assez facile pour le... peut-être qu'il faut prendre effectivement des précautions, mais c'est la première chose qui
On va pas se mettre des filtres sur le nez quand même.
On ne met pas des filtres sur le nez, on va plutôt essayer de se passer des sacs plastiques dont on parlait tout à l'heure, dans un deuxième temps ou dans un premier temps et tout. Ces temps-ci, il y a aussi des endroits où on a plus de sacs papier que de sacs plastiques et tout, mais les études toutes récentes montrent que dans les supermarchés, il y a au contraire une multiplication du plastique. Ce qui est paradoxal parce qu'avec la crise énergétique, le plastique coûte de plus en plus cher. Donc là, c'est un autre thème dont on parlera.
Oui, alors donc grosso modo, l'inflation des emballages. Et ça, on en reparlera peut-être plus tout à l'heure. Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est comment tu as réussi à savoir que ce phénomène, qui est quand même un peu surprenant, moi, je pensais qu'au moins avec notre boîte crânienne, les différentes enveloppes, etc., on était protégés contre les pollutions. Et tu nous dis que non. Alors, du coup, ça passe subrepticement, on va dire, par le nerf olfactif. Mais... Donc toi, t'es pas médecin, Yves, comment t'as su ça, toi?
Ça fait plus d'un an que je bosse sur cette histoire-là, et à Noël 2024, donc
il y a un an et demi,
bout de temps, et je rencontre un professeur de l'université Duke, qui s'appelle Wissner, Marc Wissner, et qui travaille dans son université et qui travaille aussi à Rennes.
Bon, mais ça, Rennes que connaît bien M. Boulot, si je crois qu'il a été étudiant à Rennes.
Exactement.
Et,
ben voilà.
Et donc, à Rennes, il me dit, mais tu sais, Yves, j'ai une histoire à te raconter. Moi, j'aime bien les histoires, mais celle-là, c'est moyen quand même. Et il me dit, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a découvert chez nos chercheurs. Lui, il dirige une unité qui est spécialisée dans les recherches, justement, sur les plastiques. Entre autres, parce que c'est pas que ça, il vient de la pollution de l'air et de la pollution de l'eau, donc de tous les endroits où ça se balade et on retrouve ces éléments-là. Et il m'explique ça pendant une heure. Je rentre chez moi et je l'appelle et je dis j'ai rien compris à ton histoire.
Il t'a gâché ton réveillon, quoi.
Non, pas trop. C'était après le réveillon et il n'y avait pas de dinde en plus. Non, c'était un menu américain, justement. Je l'ai au téléphone. J'ai dit, écoute, je crois que je vais retourner te voir à Rennes et tout. Mais je t'envoie un premier papier. Et là, à partir de ça, tu vas me dire où je suis à côté de mes pompes ou pas. Donc, il commence à regarder et il me dit, oui, tu es quand même un petit peu loin de la réalité. Mais je vais corriger. Et à partir de ça, tu vas pouvoir avancer. L'idée étant bien sûr qu'on parle du cerveau parce que c'est le pire,
oui.
Mais il n'y a pas que le cerveau dans cette histoire. Le cerveau, au hasard, sur le plastique dans le cerveau, c'était 5 grammes en 2025. On est en 2026.
Oui, mais 5 grammes avec des doses en nanogrammes, il en faut quand même un paquet, quoi.
Oui, c'est ça, il en faut un paquet. Voilà, tu vois, j'ai fait une noix de 7 grammes. Vous voyez ce que ça fait dans le cerveau.
Donc 5 grammes, c'est l'équivalent d'un cerneau de noix, quoi.
D'un cerneau de noix, exactement.
D'un seul ou de deux?
Le cerneau entier. Le cerneau entier, de noix. Après, il faut voir, ça dépend de ta noix. Toutes les noix de...
Si elle est de Grenoble ou de...
Toutes les noix ne se valent pas.
Voilà. Mais bon, grosso modo, en tout cas, c'est à peu près l'image. On a
deux... Mais, alors, 5 grammes en 2024-2025, 7 grammes en 2026-2027. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est que ça progresse.
Oui, mais si effectivement ça progresse, c'est alarmant.
Et ça progresse pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les évacuer. Une fois que c'est dedans, ça reste. Parfois, ça ressort, mais ça ne ressort pas.
Mais alors, 7 grammes, c'est chez tout le monde ou c'est chez tous les enfants ou il n'y a que les vieux qui ont, comment dire, accumulé comme on accumulait du mercure avec les thons à Minamata
Les vieux, ils n'en ont plutôt pas plus, surtout s'ils sont très vieux parce qu'ils ont bouffé moins de plastique
que
les autres, tu vois.
Donc,
ce n'est pas forcément une question de génération. Disons que c'est tout le monde. Hein, en gros, il n'y a pas de...
Oui, donc les vieux ont peut-être été moins exposés dans leur jeunesse et de leur enfance que...
Ouais, enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais malgré tout, ça ressemble à ça. Parce que ce qu'il y a de terrible là-dedans, c'est que donc, les nanoplastiques, on a une barrière qui protège le cerveau. Cette barrière, elle s'appelle la barrière hémato-encéphalique. D'accord. Et la barrière hémato-encéphalique, on n'est pas censé la traverser. On doit rester derrière tranquillement.
C'est pour ça que je te parlais de sacrilège tout à l'heure.
Ben oui, c'est un peu un sacrilège, tu avais raison. Je retire. C'est parce que je ne suis pas très religieux. Là.
Oui, non, mais là donc, pour le coup, c'est un sacrilège du vivant. Quoi.
Donc ces nanoplastiques, ils contournent cette barrière, ils ne la traversent pas, ils la contournent parce qu'ils sont tellement petits. Ils sont tellement petits qu'ils arrivent à passer par le nez. Le nez, c'est le nerf olfactif. On a tous un nerf olfactif, sinon on ne pourrait pas respirer et tout. Et pour s'installer dans le cerveau, via ce nerf olfactif, et pas seulement, ça passe aussi par le sang, et ça passe aussi par certaines graisses alimentaires, saturées, qui sont les plus mauvaises, les plus méchantes, et tout, parce que le cerveau adore les graisses. On va pas faire un cours sur le cerveau et les graisses alimentaires, mais en tout cas, les trois moyens.
Bon, moi, la question que je me pose, ok, on retrouve du plastique dans le cerveau, bon, a priori, le plastique, c'est quand même du carbone. Charlotte va nous dire ça. Oui, voilà, donc on est déjà fait un peu de carbone. Donc la question qui se pose, c'est grave, docteur?
Juste une parenthèse, c'est du carbone comme nous, donc c'est d'autant plus difficile à détecter.
En plus.
C'était une des premières choses que le professeur Wissner m'a expliqué, c'est qu'après, sauf que...
Oui, chercher du carbone dans une botte de carbone, c'est...
Voilà, sauf que ces nanoparticules, elles n'arrivent jamais toutes seules. On anticipe peut-être un peu. Elles arrivent soit avec des bouts de métaux, soit avec autre chose, soit avec des graisses, justement. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on arrive à les identifier. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce qui se passe et même à les évaluer, puisque c'est bien ça qui suit. C'est des recherches qui ont pris, à partir du moment où ils avaient le doigt dessus, c'est pas tout à fait le doigt, mais tout, à partir du moment où ils ont commencé à comprendre ce qui se passait, il s'est passé un an, il s'est passé deux ans.
Mais c'est quand même très récent, parce que...
C'est récent. Les premières recherches, les premiers aboutissements, c'est un an et demi, pas plus. Et encore, il y a pas mal de choses qui sont sorties en 2025, qui est moins de 20 ans. On est sur quelque chose qui va évoluer. Ce que j'essaie de vous raconter, c'est pas ce qui se passe, c'est le début d'une aventure. C'est le début d'une alerte, parce que c'est vraiment une alerte. Et cette alerte-là, il faut qu'on la comprenne. Et la seule façon de la comprendre, on verra tout à l'heure, c'est d'arriver à diminuer notre consommation de plastique, bien sûr.
Ben, tu m'as toujours pas répondu. C'est grave, docteur ?
C'est grave, docteur, parce que à partir du moment où ça s'accumule dans le cerveau, les liens qui ont été faits à partir de ça, on considère que dans les personnes qui sont atteintes de démence, elles ont, en gros, ce qui a été fait après la post-mortem, bien sûr, 10, au moins 10 fois, 20 fois plus de nanoplastiques dans le cerveau que les personnes qui seraient en bonne santé comme toi et moi, comme nous autour de ce micro.
On espère, mais bon...
et donc, à un moment donné, une chercheuse française qui s'appelle la docteure Mathilde Body, qui travaille à l'INSERM à Rennes, le médecin en question, elle a fait des études moins sur les personnes que sur les souris. Et toutes ces souris, à partir du moment où elle leur a injecté des doses de plastique de plus en plus fortes, eh ben elles sont devenues, j'allais dire barges, elles sont devenues de plus en plus folles. Et pour elle, la docteure Body, qui aimerait bien pouvoir ses recherches si on lui filait
des subventions.
Un peu plus de fric pour ses recherches, le lien avec la démence est une évidence. À partir de ça, et ce qui confirme ce qu'ont fait les chercheurs américains des deux universités que j'ai citées. Maintenant, dire que tout le monde qui absorbe du plastique de cette façon-là va devenir fou, ou va devenir dément, avoir une démence, on sait qu'il peut y avoir un lien avec les autres maladies neurodégénératives que l'on connaît, et que l'on connaît bien, mais on sait que ces maladies neurodégénératives, elles progressent sans cesse. On ne sait pas pourquoi elle progresse.
Dans la population, c'est ça que tu veux dire.
Dans la population.
Il y a de plus en plus de gens.
Voilà.
On a longtemps expliqué, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vieux et que la dégénérescence, ça vient avec la vieillesse. Donc c'était presque mécanique et démographique, il y a comme explication.
Mais ce n'était pas vrai il y a 100 ans.
Il y a 100 ans, moi j'étais pas là encore, mais...
T'étais pas là, mais tu sais lire.
Oui.
Alors, oui, la dégénérescence en question, c'est quelque chose de récent. Il y a toujours eu des personnes qui pétaient les plombs, j'allais dire, qui allaient pas bien et qui, ici, on disait, on va les mettre dans un endroit. Maintenant, la progression, elle est phénoménale. Moi, j'ai une amie proche dont c'est le cas. Elle reconnaît ses enfants, elle reconnaît sa petite fille qui est la même que la mienne, mais au fur et à mesure ça va bien, puis pop 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 ça se dégrade. Alors quelle est la part du plastique dans cette histoire là il n'y a pas que le plastique, il y a d'autres éléments qui se baladent dans notre cerveau. On en entend parler assez régulièrement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais malgré tout c'est ça qu'il faudrait arriver à cerner. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Qu'est-ce qu'on accumule dans notre cerveau qui le dérègle? Parce que c'est un dérèglement.
On n'est pas dans des maladies, on va dire, spectaculaires et rapides. On n'a pas identifié de...
Allègre FM 93.1.
de mésothélium du cerveau, comme on a le mésothélium des poumons avec l'amiante. Ça a l'air plus sournois que ça, d'après ce que tu nous dis. Mais effectivement, ce qui moi, me fait un petit peu peur quand tu nous parles de ça, c'est que c'est la généralisation de l'exposition à ces contaminants. Contaminants, d'ailleurs, qui sont largement sous-évalués, sous-estimés. Mais est-ce que tu es en train de nous faire peur ou c'est un vrai risque? C'est ça la question.
Si j'étais en train de vous faire peur, je ne serais pas ici.
D'accord.
Déjà, et je ferais autre chose parce que quand je suis tombé dans cette histoire-là, je travaillais sur un autre livre qui est sur la mer qui monte.
D'accord, mais bon.
La mer monte et la France rétrécit.
Voilà.
Et ça, c'est autre chose.
Mais effectivement, ce sera une autre émission. Et effectivement, on va rester sur le plastique. Alors. Peut-être que monsieur Bolo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le député? On va vous appeler encore député ce
on
soir.
On peut l'appeler toute sa vie.
Non, on ne peut plus.
On peut plus.
Fini,
on peut plus. Mais bon,
c'est fini depuis,
ceci
depuis,
étant.
Depuis 20 jours.
Alors,
3 semaines.
Ah ouais, donc c'est quand même récent. On va dire qu'on est un tout petit peu en retard.
Vous appelez monsieur le maire.
Voilà, donc monsieur le maire. Mais bon, les maires s'occupent pas. Ah si, il y a le comité d'hygiène. Mais bon, je dirais que ça dépasse un petit peu vos attributions. Par contre, en tant que député.
Il y a une petite subtilité.
Voilà, en tant que député, je crois que vous avez beaucoup travaillé sur cette question des pollutions par le plastique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette révélation que nous fait ce soir Yves Lers?
Ce que nous dit Yves là, à l'instant, c'est qu'il confirme ce que la communauté scientifique indique depuis maintenant quelques années, et qu'effectivement on a des microplastiques qui se retrouvent partout dans notre corps, dans le cerveau, donc puisqu'il s'est particulièrement intéressé à cela, Yves, mais on en retrouve aussi, il y a eu d'autres études qui ont montré qu'on en retrouvait dans le sang, qu'on en retrouvait dans les organes reproducteurs, qu'on en trouvait dans le fœtus, et que même les plus jeunes enfants...
Mais c'est avec du plastique.
Oui, ouais, il y a une imprégnation aussi des fœtus lors de la maternité avec des microplastiques. Voilà, c'est un vrai sujet. Et ce que Yves l'a dit, c'est presque normal. Enfin, c'est une anormalité qui devient normale, puisque finalement, ces microplastiques, ils ont envahi l'ensemble des milieux. On en a dans les sols, on en a dans l'eau, qu'elle soit douce ou salée. Il y en a aussi dans l'air que nous respirons, c'est qu'on en trouve jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. Et on en retrouve dans tous les océans, dans beaucoup d'organismes vivants. Et comme finalement, vous savez, dans la logique de la chaîne alimentaire, nous sommes celui qui est en haut de la pyramide, il n'y a aucune raison qu'on échappe à cela. Et ce que montre aussi, c'est cette omniprésence des microplastiques partout, dans tous les milieux. C'est quand on le regarde sous l'angle de la santé unique, One Health en anglais, toutes les étapes, toutes les chaînes, tous les maillons de la chaîne alimentaire, tous les êtres vivants sont concernés. Et au final, c'est notre santé qui est remise en cause directement par l'imprégnation qui est la nôtre, mais aussi indirectement par tous les désordres que cela provoque sur l'ensemble des organismes vivants, des milieux, et dont finalement notre santé dépend. Et donc c'est aussi cela le sujet de la pollution plastique.
Effectivement, moi ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est comme vous le dites, ça atteint la santé globale, One Health, donc c'est tout le vivant qui est contaminé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut... Moi ça m'a choqué qu'on puisse atteindre le cerveau, mais bon, à la limite, on est peut-être dans le domaine du symbole, mais la vraie question, c'est comment on continue à produire 500 millions de tonnes, ou à peu près, parce que les chiffres sont pas tout à fait précis, oui, mais ce qu'on sait, c'est que la production augmente à une vitesse pratiquement exponentielle. Ça a doublé depuis 2000. Et on produit des... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est toxique? Est-ce qu'on peut employer ce terme?
Il y a deux façons de regarder le sujet. Il y a le sujet de la physique, on va dire, des particules. Donc la pollution plastique, déjà, quand on en parle, c'est sa forme visuelle. C'est-à-dire, on se balade dans une rue de la ville... dans laquelle on habite, on voit régulièrement des bouteilles plastiques, des emballages agroalimentaires. Donc ça, c'est la pollution visuelle. Nous, on est relativement épargnés.
Macro-pollution, quoi.
Voilà, et il y a d'autres endroits sur la planète où c'est énorme, quoi. Voilà, ça, c'est le premier point. Puis tout ça se dégrade, Yves l'a dit tout à l'heure, et ça devient des particules de plus en plus petites, et donc une pollution invisible et insidieuse qui envahit tous les milieux, on en a parlé.
Et là, on veut parler de contamination, quoi.
Ouais, tout à fait, de l'ensemble de la planète. Et après, on a aussi une autre dimension qu'il ne faut jamais perdre de vue. Quand on fabrique un plastique, on prend un polymère et on ajoute des additifs pour lui donner une couleur, une transparence, une plasticité, une résistance aux ultraviolets, etc., etc. Et ces additifs, beaucoup d'entre eux, sont des perturbateurs endocriniens. Donc on a aussi une dimension chimique. C'est-à-dire que quand on prend ces microparticules, au-delà du fait qu'elles n'ont rien à faire dans le cerveau, elles entraînent avec elles des molécules qui peuvent venir perturber notre système hormonal, ces fameux perturbateurs.
Donc, si je comprends bien, c'est peut-être pas l'agent pathologique du plastique par lui-même, mais c'est plutôt parce qu'il transporte d'autres atomes, d'autres produits qui, molécules. Eux, sont sûrement plus qu'on peut qualifier de toxiques, quoi.
Oui, mais l'accumulation perturbe. L'accumulation elle-même perturbe. Quand tu mets quelque chose dans une boîte, c'est que ça resserre. Bon, tu sais qu'il y a une cochonnerie au fond, tu vas essayer de l'enlever. Là, on peut pas l'enlever. Ce que je voudrais reprendre, si vous le permettez, c'est qu'on a parlé du cerveau, mais comme vous l'avez dit, M. Bollot, c'est pas uniquement le cerveau, c'est tout le corps. C'est-à-dire aucun des organes vitaux, comme le foie, comme les reins, comme les poumons, comme le cœur, ne sont épargnés par en particulier les particules de plastique que sont le polyéthylène et le polystyrène, les deux plus courantes. Et tous ces, le pire dans mon esprit et tout par rapport au cerveau, c'est le placenta, parce que le placenta se révèle incapable de protéger le fœtus. Ce qui veut dire qu'avant de naître, les enfants connaissent le plastique avant de naître. Il est transmis involontairement par leur mère, par leur future mère, par leur mère, par la grossesse de leur mère. Et ça, c'est terrible parce qu'on arrive à des...
Ah bah effectivement, ça devient presque ce qu'on peut dire contre nature. En tout cas, c'est extrêmement choquant. Mais la question, c'est est-ce que nos espèces, le vivant global, va pouvoir continuer à vivre avec ce genre d'intoxication ou pas ? Est-ce que là-dessus, il y a des scientifiques qui ont travaillé ? Parce qu'aujourd'hui, on continue à avoir une espérance de vie qui progresse.
Ben oui.
Mais est-ce que ça va être infini avec ce genre de contamination ?
D'autres scientifiques ont calculé, en particulier l'université de Houston a fait des travaux là-dessus. Il y a eu beaucoup de travaux faits par les universités des États-Unis, mais il y a aussi des universités européennes, françaises assez peu, à part celles que j'ai citées, et italiennes qui ont fait un gros boulot.
Bon, ils consomment 221 kilos de plastique par an, les États-Unis, quand nous, on en consomme 70. Donc, effectivement.
Mais je ne dis pas que c'est une solution.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est très bien qu'ils cherchent. Ils sont sûrement un peu responsables de la chose.
Ce qu'on sait, qu'à partir du moment où cette pollution s'aggrave, ce qu'on a dit à propos du placenta, le placenta ne peut pas protéger le fœtus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Plus il y a de nanoplastiques et de micros, d'ailleurs, aussi dans le placenta, plus les naissances prématurées sont multipliées par 3, 4 pas. Donc on se pose des questions sur la natalité. Pourquoi tous les politiques, je ne parle pas de vous, Monsieur Bollot, mais tous les politiques qui disent « Oh, faites des enfants !» Mais encore une fois, c'est une préconisation parmi d'autres. Est-ce qu'on pourrait se poser des questions de savoir pourquoi est-ce qu'on fait moins d'enfants, pas seulement par une histoire de volonté du couple qui fait ce qu'il veut, effectivement. Enfin, en tout cas dans nos pays.
Bon, donc le pronostic, est-ce que vous avez un pronostic, Monsieur Bollot ?
Sur le...
Sur on continue comme ça, qu'est-ce que ça va donner ?
Il ne faut pas continuer comme ça, mon pronostic. Je n'ai pas de pronostic parce qu'il ne faut pas le faire. Il faut justement il faut écouter davantage la communauté scientifique. Je compléterai bien ce qu'a dit Yves quand même. C'est quand même de très bons chercheurs en France qui travaillent sur le sujet au niveau de l'INRAE et du CNRS. Et d'ailleurs, je voudrais vous signaler l'existence d'une étude. Enfin, c'est plus qu'une étude. D'ailleurs, ce n'est pas une étude. C'est une compilation de connaissances qui a été réalisée par l'INRAE et le CNRS.
Donc, c'est une expertise collective, ce qu'on appelle.
Oui, exactement, c'est une ESCO, une expertise scientifique collective.
La première était sur l'amiante, je connais bien le sujet.
Une sur le plastique, sur toute la chaîne, de la fourche à la fourchette,
d'accord.
Du champ à l'assiette, et qui montrent justement, et ça répondait à votre question précédente, que, et c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser les choses se laisser se poursuivre comme ça sans agir, sans avoir une action forte pour réduire ce phénomène de pollution, c'est qu'il nous montre que finalement ça peut interroger aussi le sujet des rendements agricoles. La présence de plastique dans le sol va évidemment interférer avec la biodiversité, qui va avoir une incidence sur la fertilité du sol, sur la capacité de la plante à se nourrir, donc sur le rendement. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut même avoir parfois des situations où on interroge notre capacité à continuer à s'alimenter avec une omniprésence des plastiques dans les sols. Et ça, c'est relativement grave, et je le pense, et je fais partie de ceux qui, justement, si j'ai agi aussi fortement à l'Assemblée nationale, c'est pour dire qu'on ne peut pas se permettre de se dire qu'on va aller dans ces trajectoires qui nous amènent nulle part et qui sont la fin d'humanité telle qu'on la connaît, et qu'il faut s'alerter très rapidement. La communauté scientifique, encore une fois, le fait, mettre en place des mesures politiques, des mesures législatives. Okay.
Alors, il y a Yves qui brûle d'impatience de vous poser une question.
Monsieur Bolo, vous vous êtes battu sur ces histoires de plastique depuis pas mal d'années, y compris à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à un moment donné, l'Assemblée nationale sera capable de prendre des dispositions qui permettent de freiner la consommation? On sait qu'on est face à des lobbies extrêmement puissants. Il ne faut pas oublier que le plastique, c'est d'abord du pétrole, et que la plupart des gens n'imaginent pas que le plastique, c'est du pétrole. J'ai acheté des chaussures l'autre jour, j'ai dit je veux pas de chaussures en pétrole. Le mec m'a regardé avec des drôles de yeux. Est-ce que la bagarre que vous avez menée, est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir continuer longtemps ?
Oui, je suis optimiste. La bagarre, les textes de loi ont déjà apporté des avancées. C'est le cas de la loi AGEC. La loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et on a mis en place des mesures qui se font aujourd'hui partie de la loi, qui vise justement, vous voyez, par exemple, à supprimer les emballages à usage unique en 2040, qui vise à limiter la quantité de bouteilles d'eau en plastique en circulation, qui vise à beaucoup de choses, et notamment aussi sur la restauration collective, voyez-vous, qui dit qu'on arrête d'avoir de la vaisselle jetable et qu'il faut de la vaisselle réemployable. Et donc cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'on va passer d'un modèle d'économie linéaire à un modèle d'économie circulaire, et que la circularité, on l'obtient avec trois leviers principaux. Les trois R de l'économie circulaire, il y en a plus, évidemment, mais je vais, par simplification, vous parler de ces trois-là. Le premier, c'est la réduction, c'est-à-dire la sobriété. On n'utilise pas le plastique, on n'en a pas besoin. Je vous donnerai l'exemple aujourd'hui, on voudrait nous vendre des œufs durs dans des coques en plastique, alors qu'on peut acheter un œuf frais, le faire bouillir chez nous, c'est pas très compliqué pour le faire durcir et le consommer. Eh bien aujourd'hui, on a une offre commerciale où on nous vend les œufs durs sous coque en plastique, alors évidemment avec des molécules, des conservateurs, c'est le mot que je cherchais. Des conservateurs, parce qu'évidemment, il a perdu sa coquille, etc. C'est complètement aberrant.
Alors que les Suisses vendent depuis des décennies.
Vous avez le deuxième R qui est le réemploi, la réutilisation et la réparation. Le bon sens qu'avaient nos ancêtres, en disant qu'on a des biens de consommation, on les fait durer le plus longtemps possible. Et puis après, à la fin, quand vous avez collecté un déchet, vous avez aussi le recyclage. Donc la réduction, le réemploi et le recyclage sont les leviers de l'économie circulaire portés par la loi AGEC qui vise justement à réduire. Donc est-ce que l'Assemblée nationale a réussi ? Oui, elle l'a réussi. Mais en face de nous, évidemment, il y a des lobbies qui veulent attaquer en justice dès que c'est possible pour dire ben non, cette loi ne doit pas s'opérer parce que leur intérêt économique est remis en cause. Mais c'est une vision erronée du monde économique. Aujourd'hui, on peut imaginer une nouvelle économie basée sur l'économie circulaire, sur la circularité, qui permet d'avoir des emplois, qui permet d'avoir du partage de la valeur créée par l'économie, de conduire des politiques publiques financées par la richesse des entreprises et par la richesse de ceux qui travaillent dans les entreprises. Voilà, donc tout cela est un nouveau modèle, il ne faut pas en avoir peur. Certains en ont peur parce qu'ils ont une vision court-termiste, mais la loi a déjà opéré ce genre de changement.
Okay, mais la loi, elle est à peine appliquée, on la sent déjà attaquée il n'y a pas très longtemps, il y avait des velléités pour effectivement pouvoir réintroduire des exceptions dans ces principes que vous venez d'énoncer. Et puis très honnêtement, comment se fait-il qu'encore qu'il y a une loi et puis il y a des espèces de gens que je ne vais pas qualifier ce soir, parce que je voudrais vexer personne, mais qui peuvent nous inventer des emballages pour des os durs, mais c'est hallucinant, quoi. Alors que les Suisses, ce que je voulais dire tout à l'heure, vendent des œufs durs, ils les font cuire avec des oignons, comme ça, ça leur donne une petite couleur marron. En tout cas, c'était comme ça quand j'étais étudiant, que j'avais traversé la Suisse en stop. Je comprenais pas pourquoi chez les Suisses, il y avait des œufs d'une drôle de couleur. Et ben, c'était des œufs durs. Et donc, on peut très bien vendre des œufs durs sans les emballer, quoi.
Il y a une chose, la crise énergétique actuelle fait qu'un certain nombre d'entreprises, entre autres vers Oyonnax dans l'Ain, où il y a une vallée du plastique, c'est pas seulement une vallée d'ailleurs, certes, il y a deux usines qui ont été obligées de fermer une semaine, des usines qui font du plastique pour ces supermarchés, hein, les petits sacs dont on parlait tout à l'heure, et ils tenaient plus le coup parce que leur matière première devenait tellement chère qu'ils sont obligés d'arrêter. Alors, je ne vais pas dire que c'est une solution. Je rappelle juste que pour faire une bouteille plastique, il faut 30 grammes ou 33 grammes de pétrole. Quand vous dites ça aux gens, tu as pris ta bouteille de plastique, tu as 33 grammes de pétrole dans la main. Eh bien, ça surprend les gens parce que pour eux, le lien entre le pétrole et le plastique, il n'existe pas. Peut-être que c'est ces explications-là aussi qu'il faudra arriver à faire. Il y a beaucoup de choses à dire, comme vous le dites, Monsieur Bolo, et j'espère que vous allez pouvoir continuer à aider sur ce sujet-là.
Eh bien, on va passer quand même notre petite pause musicale avant que Monsieur Bolo réponde, parce que l'heure tourne. Et voilà, donc notre deuxième pause musicale, parce que cette fois-ci, on n'aura pas zappé.
Me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Billy Van Keep de Most High. Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Billy Van Keep de Most High. Plus jamais je ne douterai de toi Seigneur, le seul qui répond à mes appels, quelle que soit l'heure. Il n'y a que toi qui me connais par cœur, dans Babylone je marche et grâce à toi je n'ai pas peur. L'amour et la joie à partager avec mes frères et sœurs, je sais très bien que l'on ne peut éviter les pleurs, ni les belles fleurs sans odeur, ni toutes ces personnes qui meurent. Je veux éviter tous ces heurts qui veulent le beurre, de l'argent, du beurre. Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Billy Keep the Most High. Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Believe and keep the Most High. Et même si des fois ça ne va pas, relève-toi, bats-toi, sois capable. Tu n'es pas seul dans ce cas-là, il faut pas te sentir coupable. C'est dans le down que tu ne dois pas rester, faut pas laisser le débit venir t'emporter. Ce qui est fait, c'est ce que tu dois rejeter. Barman, mauvaise pensée, tu te dois d'éviter. Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Believe and keep the Most High. Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Believe and keep the Most High. Jah, tu me donnes la force de me lever. Jah, tu me donnes l'envie de continuer.
Ils veulent tous me ruiner, peuvent pas m'éliminer. Ne compte pas les années, je fais partie des aînés. La plus déchaînée, la plus illuminée, la plus mal lunée. Et quand je faisais, tu n'étais pas née.
Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Believe and keep the Most High. Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles. Je n'ai pas peur, je prie grâce à lui, j'ai le mental. Believe and keep the Most High. Et même si des fois ça ne va pas, relève-toi, bats-toi, sois capable. Tu n'es pas seul dans ce cas-là, il faut pas te sentir coupable. C'est dans le down que tu ne dois pas rester, faut pas laisser le débit venir t'emporter. Ce qui est fait, c'est ce que tu dois rejeter. Barman, mauvaise pensée, tu te dois d'éviter. Jah me donne le pouvoir pour lutter contre le mal, contre mes oppresseurs, c'est lui mon gilet pare-balles.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. On va procéder, on va commencer la procédure d'atterrissage, comme chaque semaine, on a toujours du mal à terminer à l'heure, mais bon, donc on en était à la question des solutions, et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. C'est un peu, parce qu'on a dressé un panorama apocalyptique, bon, je voudrais pas qu'il y ait une épidémie de suicide ce soir, donc je voudrais qu'on puisse trouver quand même des solutions, et puis dire qu'effectivement, faut continuer à se battre, et puis même si les obstacles sont là, on devrait pouvoir y faire face. Alors, Yves, et puis après Monsieur Bollot.
Monsieur Bollot a cité déjà un certain nombre d'initiatives. Je pense que les initiatives locales ou régionales, etc., sont très importantes. Pour nous, c'est des initiatives françaises et des initiatives européennes. Il y a eu une feuille de route qui a été adoptée au niveau de Bruxelles pour garantir un environnement sans substances toxiques. En interdisant en 2030, cette fois pas en 2040, les substances pratiques plastiques les plus dangereuses, dont les phtalates et les bisphénols, on va expliquer ce que c'est quand les phtalates et les bisphénols, les parabènes, les éthers glycols, les retards de flamme, toutes les saloperies qui s'additionnent, c'est le mot saloperie, mais c'est vraiment des saloperies chimiques qui s'additionnent au plastique et qui contribuent à le rendre encore plus dangereux.
Donc toi, il y a un cadre européen qui va nous permettre de...
Le cadre européen, si ça continue. Si
on ne vote pas contre l'Europe.
Voilà, si on n'est pas dans la logique, comme ce qui se passe en France, de donner des autorisations pour déréglementer le plus possible. Maintenant, sur le reste, sur la première piste, c'est l'alimentation. C'est vraiment l'alimentation qu'il faut déplastifier. Ce que le CNRS et l'INRAE suggèrent beaucoup dans ce que vous citiez tout à l'heure, Monsieur Bollot, c'est d'arriver à déplastifier l'alimentation.
L'emballage. Grosso modo, il y a une vraie question sur l'emballage qui représente à peu près 40% de la production des plastiques. On ne s'en rend peut-être pas compte.
Mais c'est énorme.
Et alors, Monsieur Bollot, vous vouliez nous parlait tout à l'heure pendant la pause musicale d'une initiative locale, puisque si j'ai bien compris, vous êtes en responsabilité de mettre en œuvre un peu des politiques de prévention ou de précaution sur le territoire de la métropole d'Angers. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de mon élection à la mairie d'Avrier, je suis à l'agglomération d'Angers, vice-président en charge des déchets et de l'économie circulaire.
Alors, qu'est-ce que vous allez proposer pour cette question des plastiques sur...
Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, en regardant le contenu de nos poubelles, on se rend compte qu'effectivement, le plastique y occupe une part non négligeable. Là, je parle de la poubelle de tri, la poubelle jaune. Et puis, au-delà de ça, il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a tellement que, vous voyez, j'ai du mal à les trouver dans l'ordre dans lequel...
Ça nous donnera peut-être le prétexte d'aller faire un reportage dans les poubelles de la métropole angevine. Ça nous changera, d'ailleurs, qui est le siège de l'ENRED.
De l'ADEME.
Mais avant, c'était l'ENRED, c'était l'Agence nationale de recherche sur je ne sais plus quoi et les déchets.
Ouais,
et puis, dans le
secteur.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un des pieds de l'ADEME. Et puis, il y a aussi l'Institut de la rudologie à Aumont, qui est un peu votre voisin. Donc, effectivement, les Pays de la Loire sont très bien positionnés sur cette question des déchets. Donc, peut-être que je vous lance une invitation. On ira peut-être faire une arène de l'écologie autour de chez vous. Là, on va être obligé d'aller très vite. Charlotte, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce panorama effrayant que Yves nous a dressé ? Alors, c'est vrai que toi, tu es dans la chimie, donc t'es pas totalement dépaysé. Dis-nous tout, quand même.
Oui, forcément, je suis dans la chimie. Enfin, j'ai été dans la chimie, donc j'ai pu voir la pollution plastique et tout, et aussi comprendre pourquoi c'est si problématique, et notamment pour revenir rapidement sur l'illusion du recyclage plastique qui pose quand même beaucoup de soucis parce que chimiquement, ce n'est pas du recyclage. Une bouteille en plastique ne peut pas redonner une bouteille en plastique.
Bon, eh ben écoute, là effectivement, tu vas fracasser, alors non pas la bouteille plastique, mais un certain dogme qu'on a peut-être érigé depuis la promulgation de la loi de 92 sur la gestion des déchets, et notamment la création de ce qui s'appelait à l'époque éco-emballage, qui a toujours promu c'était une directive européenne aussi. On a longtemps pensé que le recyclage du plastique, notamment, était la solution idéale.
C'est une solution défendue par les industriels.
Voilà. voilà, oui, c'est éco-emballage, on l'a vu, on l'a découvert après, mais bon, chaque chose en son temps. Donc alors, un reportage à Angers, une émission de polémique, débat sur faut-il ou pas recycler. Bon, bah voilà, c'est comme d'habitude, on fait nos courses, on coche, on va faire notre sommaire pour les prochaines éditions. Prochaines émissions et éditions, c'est vrai.
Et le climat, on peut en parler ?
Allez, vas-y, mais t'as plus que deux minutes parce que.
Deux minutes, ça me suffit.
Voilà, vas-y, fonce.
Le plastique dans notre environnement, d'accord. Mais ce qu'on oublie quand même, c'est l'impact du plastique sur le climat. On parle beaucoup du plastique, de l'impact environnemental des avions, et on a à juste titre, mais l'impact du plastique sur le climat, c'est 5%. C'est plus que les avions. Ça aussi, c'est des choses qui permettent de sensibiliser la population. Quand vous utilisez du plastique, vous aggravez le changement climatique. Voilà. Ça vous va ?
Comment le plastique, techniquement, comment ça se passe ? Comment ton plastique, la bouteille de plastique, va produire de l'effet de serre ?
Parce que le plastique, c'est du pétrole.
Oui, mais bon, il ne s'envole pas, ce pétrole.
Il ne s'envole pas, on l'utilise. Au fur et à mesure qu'on l'utilise, on aggrave le changement climatique grâce au pétrole qu'on utilise.
D'accord.
Qu'il soit transformé en tout.
Bon, tu nous feras un encadré sur le sujet, parce que là, j'ai... Bon, je veux bien te croire, je te fais confiance, mais il faudra qu'on m'explique, malgré tout. Parce qu'effectivement, on ne passera pas non plus... le changement des mentalités ne passera pas simplement par faire peur agiter des chiffons rouges ou autres, il faudra aussi pouvoir faire de l'éducation.
Des chiffons rouges qui ne sont pas en synthétique.
Voilà, c'est ça. Ok, du bon coton. Non, même pas du coton, parce qu'il peut y avoir des pesticides dedans. Bon, on va faire des chiffons de lin.
Du coton bio, c'est
du chanvre.
Ah, du chanvre. Bon, eh ben écoutez, quelqu'un veut rajouter quelque chose ?
Philippe.
Dans le temps imparti, vous remerciez pour faire une émission telle que celle-ci sur ce sujet-là. Parce que moi, ce que dans mes actions à l'Assemblée nationale et que je vais poursuivre donc ici à l'Agglo d'Angers, parler du plastique, c'est aussi mettre le sujet toujours au-dessus de la pile. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui sont conscients, qui sont sensibilisés, qui agissent. Parce que la solution, elle passe aussi par les consommateurs qui font les bons choix et qui n'achètent pas des produits hyper plastiques.
Eh ben, écoutez, monsieur Boulot, je crois qu'on va prendre rendez-vous. Et en tout cas, on fera une belle émission et puis peut-être d'autres choses sur le sujet. Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier. Voilà,
il y a les
19h57 qui s'affichent à la montre et les fatidiques. Et donc, je suis obligé de saluer tout le monde, de vous remercier, remercier nos invités, remercier la régie qui a été formidable ce soir. Alors, Béatrice, qui n'a pas beaucoup parlé, qu'on n'a pas entendu, mais bon, qui fait partie de l'organisation. Charlotte, qui continue à faire ses premières émissions derrière le micro. Monsieur Bolo, qu'on a réussi à joindre, c'est un exploit. Et puis Yves, qui a bien tenu le micro, puis aussi qui continue à préparer ce livre qui va être fracassant dans quelques mois, m'a-t-il dit, que son éditeur peaufine.
À l'automne.
Voilà, à l'automne. Bon, bah écoutez, on a pris rendez-vous et on vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis merci encore, vous étiez dans les arènes de l'écologie, sur Aligre FM. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.